Bonsoir. On va commencer à peu près à 18h parce qu'on a un tempo assez rigoureux à respecter. Donc, bienvenue à tous. C'est avec beaucoup de plaisir que je vous présente Christophe André. Christophe André qui est une personnalité qui compte depuis de nombreuses années maintenant dans le monde de la psychothérapie en France. Christophe André est médecin, il est psychiatre à l'hôpital Sainte-Anne où il exerce à mi-temps, je crois, hein. Et le reste de son mi-temps est bien fourni puisque j'ai étudié pour la conférence la liste de ses écrits, articles, différentes publications, tous ses ouvrages. Et ma foi, je pense que son 50% est un gros 50%. Voilà, donc vous aurez la possibilité après la conférence, je pense, d'avoir de bonnes minutes pour échanger avec lui autour des ouvrages. Vous avez vu qu'il y a un stand librairie qui est à l'entrée des salles de conférence. Voilà, qu'est-ce que je vais dire d'autre que je vais lui laisser présenter la conférence. Il est question de bien-être, de bonheur, donc je pense qu'on va pouvoir écouter avec grand intérêt sa conférence et avec beaucoup de bienveillance. Merci. L'Espace Malaise France me demande de vous communiquer qu'il y aura un enregistrement audio et que cet enregistrement audio de la conférence pourra ensuite être... écoutez, alors là je ne sais plus trop comment, il doit y avoir un site peut-être. Pardon, alors sur le site de l'Espace Malaise France. Voilà. Que vous pourrez télécharger, j'imagine. Hein. Oui. Voilà. Je te laisse la parole. Merci.
Merci beaucoup Alain. Et merci, d'abord merci à vous toutes et à vous tous d'avoir consacré votre fin de journée à cette rencontre. Merci à l'Espace Mendès France de nous accueillir, à Alain et à mes collègues de leur invitation et de leur présence. Alors l'idée c'est je vais vous faire un topo pendant à peu près une heure, je vais essayer de ne pas déborder une heure pour qu'on ait le temps d'avoir quelques échanges et quelques questions sur ces thèmes importants à notre avis, que sont le bonheur et la conscience dans le monde de la psychothérapie, puisque vous allez voir que ces questions de psychothérapie, le monde de la psychothérapie en tout cas est un monde qui est en plein changement par rapport à ce qu'on en connaissait auparavant, par rapport aux convictions qu'on avait auparavant, et je voudrais vous présenter quelques-unes des directions qu'il est en train de prendre. Alors, tout d'abord, ce petit dessin pour vous rappeler que bien évidemment, vous n'êtes pas obligé de croire tout ce que je vais vous dire. Hein. Vous avez absolument le droit à certains moments de ne pas être d'accord, de considérer qu'il y a d'autres façons de voir les choses et de pouvoir en discuter avec moi à la fin. Hein. Ce n'est pas parole d'évangile, évidemment, tout ça, mais ce sont des convictions avec un certain nombre d'étayages par des études scientifiques, puisqu'on est quand même apparemment dans un lieu consacré à la science, donc on va essayer de s'ajuster de notre mieux à cette ambiance. Alors voici le plan que je me suis proposé de suivre. Donc on va parler de ce qu'on appelle d'abord la psychologie positive, c'est-à-dire toute cette branche de la psychologie consacrée à nos forces, à nos points forts, consacrés au travail qu'on peut faire pour devenir plus costaud par rapport aux difficultés. C'est un peu le travail que je fais à l'hôpital Sainte-Anne, puisque au départ, je m'occupais dans notre unité de soigner les troubles, ce qu'on appelle les troubles émotionnels, les troubles anxieux et dépressifs. Et puis, peu à peu, je me suis orienté vers la prévention de ces troubles et notamment la prévention des rechutes. Comment faire lorsque les gens ont présenté des épisodes d'anxiété très forts ou des problèmes de dépression? Comment faire pour qu'ils n'y retombent pas régulièrement tout au cours de leur vie, puisque malheureusement c'est quand même une possibilité et un risque assez fréquent, hein. Ce sont des troubles qui ont tendance à revenir et à gâcher pas mal d'années dans la vie des gens. Et donc, ça fait pas mal de temps aussi qu'on se pose la question de savoir qu'est-ce qui peut rendre les gens plus costauds par rapport à ces histoires de rechute. Et c'est un peu dans ce cadre que je me suis intéressé, comme d'autres, aux histoires d'estime de soi, d'équilibre émotionnel, de psychologie du bonheur, aujourd'hui aux techniques de méditation, pour essayer d'aider les personnes vulnérables à davantage de solidité, donc par rapport à leur fragilité, leur vulnérabilité. Donc c'est un petit peu ça le champ de la psychologie positive. Alors on abordera également quelques études scientifiques soulignant à quel point il y a des avantages intéressants à cultiver des émotions positives. On verra aussi qu'il faut aussi quand même avoir quelques émotions négatives, malgré tout, mais on verra dans quelles conditions. On reviendra sur toutes les données dont on dispose sur la psychologie du bonheur. Qu'est-ce qui peut nous rendre un peu plus heureux que nous ne le serions spontanément sans faire d'efforts? Quels sont ces efforts? Et puis je vous parlerai de mon dada depuis quelques années, toutes ces questions de conscience, de pleine conscience notamment, en quoi ça consiste, comment ça peut nous aider, avant de conclure. Donc vous voyez, on a un programme bien chargé, on va démarrer tout de suite. Alors vous l'avez compris, ces histoires de psychologie positive s'inscrivent de manière complémentaire par rapport à la psychologie, non pas négative, mais classique, ou la psychothérapie classique en tout cas, qui s'intéressait à la question qui est de diminuer le mal-être des gens. En psychologie positive, on considère que ça reste important. Si quelqu'un est anxieux ou déprimé, on va d'abord essayer de diminuer son anxiété ou sa dépression. Mais ce qui est aussi important, une fois qu'on l'a aidé à se sortir de la maladie, c'est l'aider à continuer d'aller bien ou peut-être même à aller un peu mieux qu'il n'allait avant de tomber malade, sachant que peut-être qu'avant de tomber malade, il y avait déjà des fragilités. C'est un peu la même logique qui est à l'œuvre actuellement dans toute la médecine. Vous savez que la révolution qu'a révélé quelqu'un comme David Servan-Schreiber, qui est décédé cet été, à qui on peut rendre vraiment un hommage important pour sa vision, ses qualités de pédagogue, c'est de rappeler à quel point les personnes qui avaient un cancer, qui avaient été soignées pour leur cancer, ne devaient pas être laissées comme ça à l'abandon, et qu'on pouvait essayer de leur donner des conseils de style de vie, et que c'était mieux pour elles et pour le travail qu'elles pouvaient faire pour se maintenir en aussi bonne santé que possible. Et c'est un peu la même chose en matière de psychologie. Donc on cherche non plus seulement à soigner, à guérir, à remonter, mais aussi à empêcher de retomber. C'est tout le champ de la psychologie positive. Alors ce qu'il faut savoir, il y a quelques malentendus concernant la psychologie positive. D'abord, ce n'est pas un recyclage de la pensée positive ou de la méthode Coué, même si j'ai rien contre la méthode Coué, qui était une méthode tout à fait novatrice à son époque et qui continue de garder des aspects intéressants. Dans la psychologie positive, donc là vous voyez un test in vivo, comme on dit, de méthode Coué, où on tente de positiver la réalité. La psychologie positive, il y a ces dimensions-là, évidemment. On cherche de recadrer notre regard sur le monde, mais il y a aussi tout un tas d'autres techniques. Évidemment, c'est beaucoup plus vaste, vous l'imaginez. Ce n'est pas non plus la substitution à des soins. C'est un peu ce que je disais tout à l'heure. Quand quelqu'un est déprimé, quand quelqu'un a des attaques de panique, quand quelqu'un est dans un état de dépendance à l'alcool ou à quelque drogue que ce soit, on ne lui propose pas de psychologie positive. D'abord, on le soigne, on allège ses souffrances, on allège tout ce qui ne va pas dans son fonctionnement. Et après, on lui propose des groupes de psychologie positive. Nous, dans le service, les patients à qui on propose un entraînement semblable sont des gens en rémission, ce qu'on appelle en rémission. Ils ne sont plus guéris, ils ne sont plus malades, ils sont guéris, mais ils restent vulnérables. Donc, on cherche à augmenter leur solidité. Donc, une fois de plus, l'idée n'est pas de remplacer les soins par la psychologie positive, comme vous le voyez sur ce petit dessin, mais vraiment, on propose ça dans une approche séquentielle. Alors, le dernier point qui est très important, c'est qu'on essaie systématiquement d'évaluer les résultats de ce qu'on fait. Donc, c'est pas seulement des bonnes intuitions, parce que ça fait très longtemps qu'on a l'intuition, au fond, que les émotions positives sont bonnes pour la santé et bonnes pour le moral. Mais vous allez voir, je vais vous présenter un certain nombre de travaux qui ont cherché à prouver ces choses-là et à les démontrer. Donc il y a tout un tas de livres, de recherches, de littérature scientifique à ce niveau-là, sur lequel je m'appuierai pour faire ma présentation. Alors on va commencer par les bénéfices qu'il y a à ressentir donc des émotions positives plus globalement, puisque c'est quand même le but central de la psychologie positive, et on va faire ensemble un petit test. Donc vous allez regarder cette figure, notamment la figure qu'il y a en haut. Donc vous voyez cette forme qui est en haut des diapositives, j'espère que tout le monde voit, et vous voyez qu'en bas il y a deux autres formes. Donc ça, on va l'appeler la forme de référence, et si vous ne les voyez pas, levez-vous. En bas, on a les formes de comparaison. Il y en a une en bas à gauche et une en bas à droite. Je vais vous demander, sans chercher à donner de bonnes réponses, mais de me donner des réponses intuitives, au pif, comme ça, spontanément, laquelle des deux figures du bas vous paraît ressembler le plus à celle du haut ? Bon, vraiment, il n'y a pas de bonne réponse. Hein. On se méfie des psys quand ils disent non, il n'y a pas de bonne réponse. Ils disent, si tu parles, il doit y en avoir une, mais il veut m'embrouiller. Vraiment, il n'y a pas de bonne réponse. Et je vous demande simplement de lever la main. Qui pense que la plus ressemblante à celle du haut, c'est plutôt celle qui est en bas à gauche ? Levez la main. Waouh ! Ça fait congrès du Parti soviétique dans les années 50, Parti communiste en URSS. Ok, qui pense que c'est plutôt en bas à droite ? Quelques courageux quand même, ok, bravo. Très bien, alors félicitations pour ceux qui ont voté en bas à droite, parce que vous avez été très courageux d'oser voter contre la majorité, c'est jamais simple. Voilà, non pas les réponses, enfin si, voilà les réponses quand même, mais surtout voilà le contexte. On utilise ce type de test dans les recherches sur les conséquences des émotions induites. Donc, les chercheurs qui travaillent là-dessus font venir des personnes à leur laboratoire et commencent par les mettre de bonne ou de mauvaise humeur, à induire des émotions positives ou des émotions négatives. Pour mettre les personnes de bonne humeur, c'est des protocoles assez standards, on va les faire gagner à des petits jeux vidéo. On les met devant un ordinateur, ils doivent jouer à des jeux vidéo. Chaque fois qu'ils gagnent, ils ont 1 euro et on règle le truc pour que ça soit très facile de gagner 20 euros en 10 minutes. Donc, ils sont de bonne humeur, ils ont gagné, ils ont touché des sous, bonne humeur. Ou bien on leur fait passer un test de quotient intellectuel, présenté comme tel en tout cas, et en le réglant pareil, de manière à ce qu'ils aient des très bons résultats, et on les félicite en leur disant, oh là là, c'est parmi les meilleurs résultats qu'on ait jamais eu au labo, et ça aussi, ça met de bonne humeur, donc de l'argent ou des compliments. Et puis alors, si vous avez été tiré au sort par contre dans le mauvais groupe, celui où on va vous mettre de mauvaise humeur, c'est l'inverse, votre jeu vidéo, ça marche jamais, les copains gagnent plein d'argent, vous avez rien du tout au bout de 10 minutes, ou bien votre test, bon, l'examinateur s'approche, il a l'air un peu triste en voyant les résultats, et puis il vous console en disant, oh bon, écoutez, on peut quand même être heureux dans la vie avec un petit QI, hein, c'est pas, on n'en meurt pas. Bon. Ça altère un peu l'humeur. Et quand on a bidouillé comme ça un peu l'humeur des gens, à la hausse ou à la baisse, on trouve en général, statistiquement, chez la majorité des gens, les résultats suivants. Les personnes qu'on a mis de bonne humeur votent plutôt pour la forme en bas à gauche. Et donc, ben, vous êtes globalement de bonne humeur ce soir. Et je ne sais pas dans l'autre salle comment ça a voté, mais ici, les gens sont plutôt de bonne humeur. Et ceux qui sont de moins bonne humeur ont voté plutôt en bas à droite. Alors tout de suite, avant que ceux qui ont voté en bas à droite viennent m'engueuler à la sortie de la conférence, comme ça m'a déjà arrivé une fois, une dame qui était furieuse, qui me disait, vous vous rendez compte, devant tous mes amis, là j'ai donné la mauvaise réponse. Ce n'est pas une mauvaise réponse, c'est-à-dire que vous pouvez très bien être un peu de mauvais poil ce soir parce que vous avez des soucis, ce n'est pas un crime d'être en colère, d'être stressé, d'être fatigué. Deuxièmement, il y a parfois ce qu'on appelle des artefacts, vous pouvez très bien être de très bonne humeur et quand même avoir voté en bas à droite parce que ça ne marche pas à 100%, ça marche majoritairement comme ça, etc. Donc il n'y a pas de souci à avoir choisi en bas à droite si vous êtes tracassé par ça. Pourquoi ? Ces résultats, ça c'est les résultats, mais comment ça marche ? Finalement, d'abord, celles et ceux qui ont voté en bas à gauche, pourquoi vous avez choisi la forme en bas à gauche ? Est-ce qu'il y avait, après coup, est-ce que vous voyez une raison ? Ça ressemble, oui, mais... Alors, parce que c'est une forme triangulaire, globalement. Ouais. Et ceux qui ont voté en bas à droite ? À cause des carrés. Voilà. En général, c'est un peu pour ça qu'on fait ce genre de choix. Les deux choix sont légitimes. Dans un cas, vous choisissez la forme globale de triangle et dans l'autre cas, vous choisissez le détail des carrés. Mais ce qu'on montre, et ce que les chercheurs sur ce type de travaux montrent, c'est que globalement, les émotions positives, leur rôle dans notre fonctionnement psychologique, c'est de nous donner du recul, d'ouvrir la focale, de nous faire prendre du recul par rapport aux situations. Et les émotions négatives, c'est de nous faire, au contraire, nous focaliser sur des détails. Par exemple, si on est de mauvaise humeur, un mot de travers dans une conversation, c'est ça qui va attirer notre attention. Si on est de bonne humeur, on est capable de recontextualiser, de se dire, bon, la personne a dit ça, mais globalement, c'est quelqu'un de sympa, globalement, notre relation est bonne, je l'aime bien, donc je peux passer l'éponge. Et c'est exactement la fonction évolutionniste de ces émotions. Dans la construction de notre cerveau, dans l'évolution de l'espèce humaine, la capacité à avoir des émotions négatives était indispensable dans les situations où notre survie était en jeu. Il fallait qu'on soit très attentif aux moindres détails. S'il y avait une petite odeur suspecte, un buisson qui bougeait bizarrement, un bruit inhabituel, il fallait qu'on soit capable de focaliser notre attention sur ce détail au détriment de tout le reste pour éviter des gros soucis, la disparition si on est attaqué par un prédateur. Mais il fallait aussi qu'à d'autres moments, on soit capable de ne pas être toujours en train de s'angoisser ou de s'inquiéter sur des détails et de lever la tête et de regarder autour de nous. D'abord pour récupérer et ensuite pour voir les ressources. Est-ce qu'il y a des refuges? Est-ce qu'il y a de l'eau? Est-ce qu'il y a des sources de nourriture? Donc on a besoin de ces deux mouvements, mais globalement on sait que chaque fois qu'on active des émotions négatives chez quelqu'un, il aura tendance à se focaliser sur les détails. C'est pour ça par exemple qu'on a des études montrant que les gens qu'on a rendus tristes et les personnes un peu déprimées, mais pas trop, sont capables de mieux repérer les fautes dans une copie ou jugent mieux du résultat d'un travail qu'ils ont pu faire, alors que les gens qu'on a mis de bonne humeur sont un peu moins dans le détail, voient moins facilement les fautes, etc. Donc les deux sont nécessaires et c'est pour ça qu'on aboutit à ce type de résultat. Alors un autre des avantages des émotions positives, c'est la rapidité d'association psychologique. Par exemple, il y a un adjectif qui s'applique à ces trois mots, humour, marché et nuit. C'est lequel ? Noir. Voilà. Humour noir, marché noir, nuit noire. Plus vous êtes de bonne humeur, plus vous trouvez rapidement ce type de réponse. Donc, s'il y en a parmi vous qui managent des équipes, si vous voulez faire du brainstorming à vos équipes, il faut plutôt les mettre de bon poil, leur faire des petits cadeaux ou leur faire des compliments avant de vouloir susciter leur créativité que l'inverse. Le stress ne marche pas dans ce type d'épreuve de créativité. Ce qu'on montre aussi, c'est que la bonne humeur augmente les comportements de coopération avec les autres. Donc là encore, c'est très important. Et là encore, c'est des recherches très classiques en psychologie sociale. On met les gens de bonne ou de mauvaise humeur. Et après, lorsqu'ils sortent du laboratoire, on leur fait passer un petit test sans qu'ils le sachent. C'est-à-dire, il y a un des comparses des gens du laboratoire qui passent avec une pile de dossiers et qui les renversent volontairement, mais on ne voit pas que c'est volontaire, devant le cobaye, la personne dont on a manipulé l'humeur. Et on regarde juste si les gens qu'on a mis de bonne humeur aident ou non plus que ceux qu'on a mis de mauvaise humeur. Et ce qu'on voit, c'est que plus vous êtes de bonne humeur, plus vous avez tendance à aider la personne que vous ne connaissez pas qui a renversé ses dossiers. Par contre, la mauvaise humeur, on est un peu replié sur nous, on rumine un peu et donc on est moins nombreux à aller aider cette personne. Il y a d'autres données qui montrent que, par exemple, les émotions positives aident à mieux se concentrer, stabilisent l'attention, etc. Bon, ça, on va passer rapidement parce qu'on ne peut pas rentrer trop dans le détail. Des études intéressantes qui montrent que les émotions positives ont un rôle réparateur après l'exposition aux stresseurs. Ça, c'est une des premières études qui avait montré ça, puis après, il y en a eu tout un tas. On induisait un stress chez des volontaires, ce qui accélérait leur rythme cardiaque. Donc, c'est des trucs assez simples. Vous demandez à des personnes de faire des épreuves de calcul mental en temps limité avec une récompense. Vous leur dites, voilà, vous allez faire 10 soustractions de tête en 2 minutes maximum. Et si vous ne vous trompez pas, vous gagnez 100 euros. Le problème, c'est que les soustractions, vous leur dites, voilà, c'est 983 787 et vous retirez 37 à chaque fois, 10 fois de suite sans vous tromper, sans papier, sans stylo. Donc, c'est un peu stressant quand même, surtout si les gens ont été un peu chauffés avant. Et donc, ça élève le rythme cardiaque. Après avoir fait subir ça aux gens, vous leur dites que vous allez leur faire passer un autre test et vous leur proposez de regarder un petit clip de quelques minutes. Et vous les répartissez dans 4 conditions différentes. Tantôt le clip est un clip comique, le petit film est comique, tantôt c'est juste des belles images, tantôt c'est des formes géométriques dépourvues de sens, tantôt c'est triste, c'est une visite de cimetière ou d'hôpital, enfin voilà, un film triste. Vous regardez simplement quel est l'impact de ce film, vous avez laissé l'appareillage qui mesure le rythme cardiaque, sur la récupération. C'est-à-dire, les gens ont été stressés, ça a élevé leur rythme cardiaque, et puis ils regardent un petit film. Lequel de ces 4 films fait que le cœur revient, le rythme cardiaque revient le plus rapidement à la normale? Plus les barres sont courtes, plus ça veut dire que le temps de retour à la normale a été bref. Et vous voyez que si les films sont drôles ou agréables, le cœur revient beaucoup plus vite à la normale que si c'est des films qui ne veulent rien dire pour vous ou carrément qui sont tristes. Ça, c'est logique. finalement, quand j'ai été stressé, être exposé à quelque chose d'agréable a un effet récupérateur physiquement, pas juste mental. Là, c'est en mesure des données physiques. Le problème, c'est que souvent, on ne fait pas ça. Quand on est stressé, on a tendance à rester accroché au truc, à ne pas avoir envie de s'accorder de bons moments pour récupérer tant qu'on n'a pas réglé le problème. Donc, quand c'est des problèmes qu'on peut régler, et voilà, on a résolu le truc, alors on s'accorde de bons moments pour récupérer. Mais quand ce sont des problèmes qui ne sont pas faciles à régler, comme beaucoup de problèmes dans notre vie, quand je me fais des soucis parce que mes enfants ont des mauvaises notes à l'école, ou parce que je me fâche avec mon conjoint, ou parce que j'ai des problèmes pour mes fins de mois financièrement, c'est des trucs qui ne sont jamais réglés une fois pour toutes, donc qui vont avoir tendance à me préoccuper, qui peuvent avoir tendance à me détourner des activités qui pourraient me faire du bien. Donc c'est un des facteurs aussi qui sont aggravants dans les situations où les personnes sont trop stressées. Elles ne s'accordent pas de temps de récupération. Donc ça, ce sont des effets à court terme, des émotions positives sur notre corps. Sur vraiment, là, on n'est pas dans du psychique, on est sur du physique, du physiologique. Il y a aussi des effets à long terme qu'on essaie d'observer dans des études portant sur plusieurs décennies. Donc, une des études les plus célèbres, c'est l'étude qui s'appelle la Nun Study, puis ça a été une des premières aussi, l'étude des bonnes sœurs, et qui a été organisée de la façon suivante. C'est les chercheurs qui essaient de voir l'impact de certaines variables de notre style de vie sur la santé à très long terme ont besoin de populations captives, de populations qu'ils vont pouvoir suivre sur plusieurs décennies. Donc il ne faut pas que les gens déménagent trop, partent dans tous les sens. Donc le top pour ça, c'est les monastères ou les couvents, parce qu'il n'y a pas trop de turnover. Quand les gens arrivent à 25 ans, en général, 50 ans après, ils sont toujours là la plupart du temps. Ce n'est pas comme une entreprise. C'est intéressant. Et là, ils ont trouvé un gisement de bonnes sœurs qui était encore plus intéressant parce qu'à l'entrée, elles avaient écrit une lettre de motivation, ce qui est logique. Quand vous rentrez dans un monastère, c'est pour la vie, donc on examine quand même avec attention qui vous êtes, pourquoi vous venez, comment vous fonctionnez. Et les chercheurs ont retrouvé ces lettres de motivation. Donc l'étude a été conduite dans les années 80 à peu près, ou 90, et ils ont passé au crible ces lettres en regardant juste le nombre de mots exprimant des émotions positives ou négatives qui y figuraient. C'était vraiment un truc très très simple. Ils ont mis au point un logiciel qui mesurait le nombre de ces mots. Et ce qu'ils ont vu, c'est qu'il y avait un lien assez serré et spectaculaire même entre le nombre de mots positifs et la survie de ces bonnes sœurs. Autrement dit, chez les 25% de bonnes sœurs qui avaient écrit des lettres à l'âge de 20-25 ans, les plus riches en mots positifs, donc on faisait l'hypothèse que plus la lettre était riche en mots positifs, plus la personne ressentait vraiment ses émotions, c'est une hypothèse de départ, plus elle vivait longtemps. 90% d'entre elles étaient encore en vie à 85 ans et la moitié à 94 ans. Et par rapport aux 25% de lettres contenant le moins de mots positifs, l'écart était énorme. C'est un écart même anormal. On ne retrouve jamais ça dans nos études. Même quand on compare l'effet de médicaments contre placebo ou d'une psychothérapie contre liste d'attente, on ne retrouve jamais des écarts aussi énormes. Et une des hypothèses, c'est que tous les autres facteurs de risque étaient égalisés. C'est-à-dire ce qui explique nos différences de longévité, c'est pas seulement les émotions positives, mais aussi nos conditions de vie. Qu'est-ce qu'on mange? Quel style de vie on a? Est-ce qu'il y a beaucoup de stress ou pas beaucoup de stress? Est-ce qu'on a des conduites à risque? Est-ce qu'on conduit notre voiture trop vite? Est-ce qu'on boit trop d'alcool? Dans un monastère, tout le monde mange la même chose, tout le monde a la vie au même rythme. Donc tout ce qui pourrait faire des différences est aplani, sauf évidemment, le monde intérieur, la capacité à se réjouir de pas grand-chose ou à se faire du souci pour pas grand-chose. Donc c'est une des explications pour lesquelles ces écarts vraiment anormaux, une fois de plus dans ce genre d'études, sont si importants. Mais à la suite de ce type d'études, on a eu beaucoup d'autres travaux, je ne sais pas si je crois qu'il y en a quelques-uns que je vous présente tout à l'heure, montrant finalement l'intérêt de ces émotions positives. Alors, ça ne veut pas dire que si vous êtes souvent triste ou inquiet, vous allez mourir rapidement. Ça veut juste dire que c'est un des facteurs de bonne santé parmi plein d'autres. Il y a plein de facteurs. Il y a l'exercice physique, il y a l'alimentation, il y a la génétique, il y a l'environnement dans lequel on vit, il y a le lien social. Mais ça vaut le coup quand même de rappeler que parmi tous ces facteurs, il y a celui-là. Un autre des bénéfices des émotions positives, c'est que ça n'est pas juste quelque chose de bénin, de léger, d'anodin, hein, le fait d'être content, d'être joyeux de temps en temps. C'est corrélé à des dimensions très importantes de notre équilibre personnel, comme le sentiment que notre vie a un sens. Donc là encore, on a quelques études qui montrent que le fait de ressentir souvent des moments agréables, des émotions positives agréables, même si c'est pour des petits détails de la vie quotidienne, même si c'est pour des petits bonheurs, c'est quelque chose qui va peu à peu donner plus de sens à notre vie. Donc, les études sont en général construites sur le modèle de celle-là. Vous demandez à des volontaires pendant quelques mois de noter chaque jour le nombre, la fréquence de des moments positifs qu'ils ont ressentis dans la journée, ou mieux, vous leur mettez sur leur téléphone portable ou avec des petits beepers des dispositifs qui vont faire un beep 10 fois par jour au hasard, jamais à la même heure. Et chaque fois qu'il y a un beep, ils doivent cocher sur une petite grille d'analogie visuelle, c'est-à-dire avec un bonhomme qui est triste ou un bonhomme qui est gai, et au milieu, ils doivent situer où se situe leur humeur. Plus le sourire est large, plus ils sont de bonne humeur, plus la tête est triste, plus ils sont de mauvaise humeur. Et donc, 10 fois par jour, comme ça, pendant plusieurs semaines. Et à la fin, donc vous avez comme ça un échantillon de relevé d'état d'âme au hasard tout au long de la journée. Donc, vous dites, voilà, ça reflète un peu l'ambiance, la météo mentale. Et à la fin, vous leur faites passer un gros questionnaire, un gros entretien sur le sentiment qu'ils peuvent avoir que leur vie a un sens ou non. Et vous apercevez qu'un des éléments qui prédit le mieux ce sentiment que leur vie a un sens, c'est qu'ils aient eu fréquemment des petits moments agréables dans les semaines qui ont précédé. Ce qui est assez logique, si vous repensez à notre étude, vous savez, des formes géométriques, plus j'ai d'émotions positives, plus je prends les choses avec du recul, je vois les choses dans leur ensemble. Donc, si j'ai souvent des petits moments agréables et positifs, eh bien, je pourrais jeter sur ma vie un regard plus global, plus équilibré, que si je suis resserré sur les choses qui ne vont pas. Et beaucoup d'études montrent en gros que le sentiment de bonheur, le sentiment qu'une personne peut avoir que sa vie est une vie heureuse, est beaucoup plus lié à la fréquence des petits bonheurs qu'à la survenue plus rare de quelques grands bonheurs. Les poètes avaient déjà démontré ça découvert ça et raconté ça depuis longtemps. Je vous disais tout à l'heure que c'était pas juste une question de, voilà, ça c'est le livre dans lequel je parle de l'équilibre émotionnel, diapositive de publicité. C'est pas la peine de toujours tout vouloir positiver. C'est pas parce que les émotions positives ont beaucoup d'avantages qu'on peut espérer ne ressentir tout le temps que des émotions positives. Il y a des moments où on a du mal et même il y a des moments où on peut pas. Tout simplement, quand on est malheureux, déprimé, quand on a des soucis, il n'y a rien de plus agaçant que les gens qui veulent nous faire positiver. Il y a des moments de notre vie où il ne faut pas chercher à positiver, on cherche juste à survivre ou à affronter les situations. Et puis, il y a aussi des inconvénients aux émotions positives. Alors, il y a un certain nombre d'études, celles qui me font le plus rire et qui sont intéressantes, c'est celles sur l'amour. Vous savez que quand on est dans un état amoureux, et les deux prototypes que les chercheurs, cette équipe de collègues là, qui font des recherches sur ça, utilisent, c'est l'amour d'une jeune maman pour son nouveau-né, pour son bébé qui a quelques semaines, ou bien l'amour des jeunes gens pour, voilà, quand ils sont tombés amoureux de quelqu'un d'autre. Ça, quand on vous met dans un appareil d'imagerie cérébrale et qu'on vous montre si vous êtes une jeune maman la photo de votre bébé, ou qu'on vous montre si vous êtes une personne, je disais des jeunes gens mais pas forcément, si vous venez de tomber amoureux, la personne, la photo de la personne que vous aimez, ça fait vraiment bouger votre cerveau très fort. Et ça se mesure. On voit des zones cérébrales qui sont suractivées, qui surconsomment de l'oxygène. Donc, c'est des zones liées aux sensations agréables, aux sensations de lien avec les autres, aux sensations d'harmonie avec le monde. Enfin bref, je simplifie un peu, hein, c'est plus compliqué que ça. Mais en tout cas, voilà, c'est les zones liées aux émotions positives qu'on retrouve systématiquement quand les gens sont soumis à des situations qui leur donnent des émotions positives. Mais quand on est très amoureux, quand on regarde la photo de l'être qu'on aime le plus au monde, il y a aussi des zones de notre cerveau qui se mettent totalement en sommeil, qui ne consomment plus d'oxygène. Et ce sont les zones, en général, associées aux émotions négatives, donc de méfiance, de capacité à surveiller l'environnement, etc. Donc ça veut dire que, effectivement, ressentir systématiquement des émotions positives, si on ne ressentait que des émotions positives, il y a certaines situations dans lesquelles on se débrouillerait plutôt mal. Par exemple, au moment d'acheter une voiture d'occasion, si on a trop d'émotions positives, on va acheter n'importe quoi, n'importe quel prix. Dans des négociations sur son salaire, si on a trop d'émotions positives, on va peut-être moins bien négocier. Et effectivement, on considère qu'il y a des moments où il est légitime de ressentir de la peur, de la colère, de la tristesse, et où c'est même indispensable. Donc, l'idée, c'est celle d'une flexibilité émotionnelle, plutôt que de tenter toujours de tout positiver. Il y a donc, comme je vous le disais, des bénéfices aux émotions négatives. Là, vous avez un exemple de bénéfice à ressentir de la peur. Vous avez, ça c'est les lâchers de taureaux dans les férias à Pampelune, et vous avez le t-shirt d'un touriste qui n'a pas eu assez peur. Vous voyez, ça lui aurait servi pour conserver sa garde-robe, et régulièrement il y en a qui se font tuer parce qu'ils n'ont plus de sentiment de peur, parce qu'ils ont bu trop d'alcool, souvent des touristes scandinaves ou américains qui ne se rendent pas compte que c'est des bêtes fauves, hein, c'est des taureaux de combat, c'est pas juste des vachettes, ou bien parce qu'ils ne connaissent pas, ils ne savent pas que c'est dangereux, ou ils le savent, mais ils ont consommé trop de substances. Une autre émotion négative intéressante, c'est la culpabilité. On conteste souvent le rôle excessif de la culpabilité judéo-chrétienne, etc. Mais à l'inverse, imaginez un monde où personne ne ressentirait de culpabilité, où chaque fois qu'on a fait souffrir quelqu'un, on ne se remettrait pas en question, on ne songerait pas au mal qu'on a fait, ça ne serait pas très rigolo non plus. Hein. Ça, c'est un dessin de Victor Hugo, c'est la conscience devant une mauvaise action, qui nous dit « stop, ne fais pas ça ». Et je ne sais plus qui disait à propos de ces histoires de bonne conscience, la bonne conscience, ça n'empêche pas les gens de commettre des mauvaises actions, ça les empêche juste d'en profiter tranquillement. Mais bon, au moins il y a ça, c'est-à-dire ça nous fait réfléchir après coup sur les erreurs ou les excès qu'on a pu commettre. Bon, ça c'est, on va passer aussi. Donc l'idée c'est que les émotions négatives sont utiles, mais pas trop. Là, ce petit dessin vous suggère que s'il y a trop de méfiance, par exemple, se méfier de quelqu'un à qui on achète une voiture d'occasion, c'est légitime. Se méfier de personnes qu'on connaît très bien depuis plusieurs années ne l'est plus. Donc, si on est trop souvent sur le registre des émotions négatives, effectivement, souvenez-vous de notre première étude, là, avec les formes, on risque de se priver de ressources importantes pour nous, notamment de ressources relationnelles dans l'espèce humaine. Mais si on n'est pas assez sur le registre des émotions négatives, évidemment, c'est leur rôle habituel de nous protéger des dangers, et donc on peut parfois se mettre en danger. Donc tout ça, c'est une histoire de balance émotionnelle, et évidemment, dans ces cas-là, on s'est posé la question des proportions. Est-ce qu'il faut que ça soit moitié-moitié, autant de positif que de négatif? Et donc ça a été étudié, on a essayé de voir finalement, toujours pareil, par ces méthodes d'échantillonnage, hein, où on prend des populations de gens qui vont bien, des populations de gens qui sont stressés, des populations de gens qui sont déprimés, pour regarder la fréquence des émotions positives ou négatives. Et on voit qu'il y a des proportions qui vont varier, mais on voit aussi, et on montre aussi, au travers d'autres études, que les émotions négatives nous marquent plus fortement et plus durablement. Alors ça, c'est les travaux d'un psychologue qui s'appelle Daniel Kahneman, qui est un psychologue américain, qui est le seul psychologue à avoir reçu un prix Nobel. On n'entend plus. Ah, c'est peut-être les piles qui... Voilà, si vous m'entendez plus, vous me faites signe. Oui, c'est un psychologue donc, qui a reçu le prix Nobel d'économie pour ses travaux justement sur l'importance des facteurs émotionnels et irrationnels dans les décisions économiques. Il doit être souvent sollicité actuellement. Et Kahneman a montré, ça a été un des premiers à démontrer, donc c'était assez compliqué la manière dont il l'a démontré, mais vous pouvez retrouver ses travaux sans difficulté, notre cerveau était beaucoup plus sensible au négatif qu'au positif. Donc, en gros, c'est ce genre de courbe. Vous voyez, là, vous avez l'impact subjectif et là, vous avez le gain objectif. Par exemple, s'il y a un jeu, on vous fait jouer à des jeux où vous pouvez gagner 100 euros ou 200 euros, ou bien perdre 100 euros ou 200 euros, et on mesure dans quel état ça vous met de bonne humeur, d'émotions positives ou d'émotions négatives. Et ce que vous voyez, c'est que si vous gagnez 100 euros, ça va élever votre humeur de ça, mais si vous perdez 100 euros, ça va effondrer votre humeur de deux fois plus. Et globalement, ça, c'est les vestiges de l'évolution. On est d'abord, on est une espèce qui a dû survivre, donc on a été doté de toute une gamme d'émotions négatives et avec une puissance de ces émotions négatives pour marquer notre cerveau et nos souvenirs très très puissantes. Et dans un deuxième temps, on a considéré que c'était bien aussi qu'on ait quelques émotions positives, un peu de qualité de vie, etc., mais moins urgent et moins important. Donc on a gardé un peu le souvenir immémorial sous forme d'émotions positives qui vont moins haut à gain égal par rapport à la descente en cas de perte égale. D'où d'où la logique de ces choses qu'on retrouve en faisant des études naturalistes, donc avec ces prélèvements instantanés. On s'aperçoit qu'en gros, dans la plupart des études, il faut au moins deux tiers, un tiers. Pour considérer quelqu'un comme allant à peu près bien dans sa tête, étant à peu près à l'équilibre émotionnel, on considère qu'il faut deux fois plus d'émotions positives que d'émotions négatives. Et quand on fait ce genre d'études, par exemple dans le couple, hein, on étudie les interactions conjugales, on dit au fond, pour que quelqu'un soit bien dans un couple, il faut combien d'interactions positives par rapport aux interactions négatives? Ou bien pour que quelqu'un soit bien dans une entreprise, au fond, on demande d'évaluer voilà, le nombre de petits moments positifs et négatifs. On s'aperçoit que ça peut monter beaucoup plus. Par exemple, les quelques études qui existent dans le domaine du couple disent que c'est du 1 sur 5, 5 positifs pour compenser un négatif. Donc si vous oubliez une année, l'anniversaire de votre conjoint, ce n'est pas en vous en souvenant l'année d'après, mais vous en êtes pour 5 ans à ne pas oublier l'anniversaire, sinon il ne vous pardonnera pas. Ou pour une vacherie, il ne faut pas une gentillesse, mais 5 gentillesses, parfois beaucoup plus. Et en entreprise, c'est du 1 pour 10 pratiquement. C'est-à-dire on a besoin d'avoir 10 interactions positives et agréables pour pouvoir en supporter une désagréable, ce qui en dit long sur l'importance des bonnes ambiances de travail. Un des facteurs qui ressort le plus dans les études sur le fait d'être content à son boulot, c'est ambiance de travail. On peut supporter des charges de travail importantes si ça se passe dans une bonne ambiance, si on a des interactions agréables avec ses collègues, avec ses supérieurs, avec ses subordonnés, etc. Ça fait passer beaucoup, beaucoup de choses. Alors, on va aborder maintenant quelques données sur la psychologie du bonheur. Je vais peut-être en passer quelques-unes rapidement. Donc, dans la série publicité, voilà les livres que j'ai écrits sur ce thème. Il y a beaucoup d'études donc, sur la question de savoir ce qui peut nous rendre plus heureux. Et donc, on s'y intéresse évidemment en psychothérapie. On repère un peu dans ce travail qu'on peut faire en psychologie positive où peuvent se situer les efforts à faire ou les gains. Donc on sait que la source principale, la grande source de nos émotions positives, de nos ressentis positifs, c'est le lien social. Quelqu'un comme Goethe, l'écrivain allemand Goethe, avait eu cette formule que je trouve très belle. Il disait « Pour moi, le plus grand supplice, ça serait d'être seul au paradis. » Autrement dit, ça serait d'avoir tout ce que je veux, mais être tout seul pour en profiter. Personne avec qui partager, personne avec qui en parler. Et c'est extrêmement vrai. D'autre part, on sait que le lien social a des vertus thérapeutiques. Et ce n'est pas seulement dans notre tête, c'est aussi à un niveau chimique. C'est-à-dire on a montré que lorsque les gens avaient des échanges sociaux gratifiants, ça normalisait leur sécrétion de cortisol. Ça augmentait la sécrétion de cortisol le matin, la descente était plus rapide dans l'après-midi, ce qui va dans le sens de ce qui est souhaitable. On a montré aussi que ça modifiait les taux cérébraux de sérotonine, notamment. Donc ça a vraiment un effet biologique, hein, tout ce qui est échange social gratifiant, psychologie de l'attachement avec des personnes sécurisantes, etc. Le grand fléau par rapport à ce lien social, c'est ce qu'on appelle le narcissisme, c'est-à-dire la tendance des individus à se placer vraiment au centre du monde et à considérer les autres comme pourvoyeurs de service, pourvoyeur de reconnaissance, pourvoyeur d'amour, mais sans se sentir en retour obligé d'en retourner. C'est un vrai problème parce qu'on s'aperçoit que c'est quelque chose qui augmente très nettement. Par exemple, les scores, c'est une étude très intéressante qui a montré qu'en une trentaine d'années, je ne sais plus sur quelle est la... voilà, entre 80 et 2006, donc entre 25 ans à peu près, les scores aux échelles de narcissisme qu'on a fait passer à des générations d'étudiants d'Amérique du Nord ont augmenté d'un tiers. C'est énorme, 30% de plus. C'est probablement dû au style éducatif. Alors c'est peut-être plus américain qu'européen, mais globalement c'est quand même une tendance naturelle de narcissiser énormément nos enfants. pour le meilleur et pour le pire. Ça leur apporte certainement beaucoup de choses, mais apparemment, ça pose également beaucoup de problèmes. Et on voit des générations de personnes qui sont peut-être beaucoup plus centrées sur elles-mêmes qu'elles ne l'étaient autrefois. Mais bon, ça, c'est un autre débat. En tout cas, ce dont on s'aperçoit quand on fait des travaux sur ces histoires-là, c'est que si on veut être heureux, c'est pas le narcissisme qui est le meilleur moyen. Au contraire, plus une personne score haut sur les échelles de narcissisme, moins elle va scorer haut sur les échelles de bien-être émotionnel et de bien-être subjectif. C'est des corrélations inversées. Et par contre, on montre que le fait d'avoir des actes de gentillesse ou d'avoir des émotions de gratitude, faire des exercices de gratitude, hein, tous les soirs, avant de s'endormir, penser à trois personnes qui nous ont fait du bien dans la journée, parce qu'elles nous ont dit un truc sympa, elles nous ont rendu un petit service, elles nous ont donné un renseignement intéressant, c'est quelque chose qui va augmenter notre bien-être. Alors, et ce qu'on voit d'ailleurs, c'est que, paradoxalement, c'est mieux de le faire une fois par semaine que de le faire plus trois ou quatre fois par semaine, très bizarrement, comme s'il fallait masser ces exercices soit de gratitude, soit les comportements de gentillesse, les faire juste une ou deux fois par semaine au lieu de les faire tous les jours, pour qu'elles aient l'effet maximum sur notre sentiment de bonheur. Donc ça, c'est des problèmes techniques, mais en tout cas, ce que ça montre, c'est que quand je suis gentil avec les autres, évidemment, je leur fais du bien, mais c'est moi le premier bénéficiaire. Quand je ressens de la gratitude pour les autres, et encore mieux quand je leur exprime, ça leur fait du bien, mais je suis aussi bénéficiaire de ces choses-là. Tout ça parce que ça renforce le lien social qui, de manière instinctive, est très très important pour nous. Alors, il y a aussi la question du lien à soi-même. Donc, dans ce cadre, on a beaucoup travaillé, nous, sur les histoires d'estime de soi, troisième page de publicité. Et évidemment, c'est très important de pouvoir être content de soi, etc. Mais depuis quelques années, on se méfie un tout petit peu de certaines façons d'avoir une bonne estime de soi. Vous avez vu l'exemple du narcissisme. Les narcissiques, ils ont une très haute estime d'eux-mêmes, mais elle est très fragile parce que elle repose sur le désir de dominer, d'être meilleur, d'être plus brillant que les autres. Alors parfois c'est un peu lourdingue, mais parfois c'est très subtil, hein. Il y a des narcissiques qui peuvent paraître comme ça très gentils, très sympas, mais en fait en les fréquentant on s'aperçoit qu'ils sont sans arrêt dans des rapports de comparaison et de compétition. Donc on a fait évoluer un petit peu cette notion d'estime de soi, qui au fond pourrait être résumée par la phrase « j'ai de la valeur et des compétences », donc assez centrée quand même sur la performance, vers des concepts comme l'acceptation de soi, c'est-à-dire montrer qu'on peut très bien avoir une estime de soi tout à fait correcte en ayant des défauts. Avoir une bonne estime de soi, ça n'est pas avoir raboté tous ses défauts, avoir écarté tous ses défauts, parce que ça nous pousse à une sorte de perfectionnisme épuisant. C'est être capable d'accepter ses défauts sans renoncer à les changer. Hein, la notion d'acceptation, ça n'est pas de la soumission à ce qui ne va pas, c'est juste cesser de se persécuter ou cesser d'avoir honte de ce qui ne va pas chez nous et s'en occuper tranquillement, sans jugement moral ou sans pression excessive. Donc ça, l'acceptation de soi est une dimension importante pour la stabilité de l'estime de soi. Sinon, on va avoir des estimes de soi très instables et très liées à nos performances en réalité, ce qui n'est pas confortable. Et puis, il y a une troisième dimension sur laquelle on travaille beaucoup depuis quelques années, c'est la notion d'autocompassion. Autrement dit, de quelle manière je me console quand j'échoue, de quelle manière je me répare quand j'ai eu des problèmes. Et actuellement, on a la conviction que c'est peut-être ça la clé d'une bonne estime de soi, d'une estime de soi stable et robuste et résiliente, hein, c'est la clé de toute forme de résilience. C'est pas tellement être performant, être brillant, être parfait, c'est avoir de la douceur avec soi-même. Pas de la complaisance, mais de la douceur et du respect pour soi-même. C'est-à-dire chaque fois qu'on a un problème, chaque fois qu'on est en échec, plutôt que de se réprimander, plutôt que de se faire violence, plutôt que de se punir, se parler comme on parlerait à un ami, comme on parlerait à un proche, et plutôt se consoler. Donc, il y a dans cette autocompassion qu'on étudie de plus en plus plusieurs composantes, la notion de douceur et de bienveillance avec soi-même, la notion de connexion aux autres aussi, le fait de se rappeler quand j'échoue que c'est normal, que tous les humains ont des soucis, des échecs, des souffrances, ont rencontré les difficultés que je peux avoir. Ça, c'est très important pour éviter que l'autocompassion soit de l'auto-apitoiement. Hein, se dire, ah là là, que je suis malheureux, c'est affreux, j'ai pas de chance, en oubliant finalement que ben, c'est une expérience humaine, que je suis pas tout seul à ressentir ces choses-là. Donc, je vais pas trop creuser là-dessus sur l'autocompassion, mais en tout cas, ce qui est très important en matière d'estime de soi, c'est que vous sachiez qu'on est en train d'évoluer vers l'enrichissement de ce concept en y incluant l'importance de l'acceptation de soi et l'importance de l'autoréparation, de l'autocompassion pour tenir la distance sur la durée. Donc vous avez un dialogue là de deux personnes, dont l'une en psychothérapie, qui explique à l'autre ses grands progrès en termes d'autocompassion. 15 ans après ma thérapie, depuis 15 ans de thérapie, je me déteste plus, mais je me méprise. Dans 15 ans, je me supporterai et ça sera merveilleux. Bon, encore une page de pub. Ça, c'est un ouvrage qu'on avait fait que j'aime beaucoup. J'avais demandé à des collègues psy de raconter comment ils prenaient soin d'eux. Comment, finalement, quand ils avaient des coups de déprime, certains, quand ils ont fait un épisode dépressif ou des attaques de panique ou des tentations de se faire du mal. Et effectivement, c'est un livre où on voit à l'œuvre ces capacités d'autocompassion. Pour terminer sur ces histoires de bonheur, une définition possible du bonheur est intéressante, à mon avis, c'est de considérer le bonheur comme du bien-être plus de la conscience. Le bien-être, c'est d'avoir le ventre plein, d'être avec des gens qu'on aime, c'est de se sentir en sécurité. Et ça, bah, les cochons, les serpents, les dindons, les hommes, tous les vivants ressentent du bien-être, et nous aussi, et c'est très bien, et c'est déjà pas mal. Ce qui est peut-être propre à l'humain, c'est de pouvoir ressentir du bonheur qui est de la conscience de ce bien-être. C'est-à-dire, quand vous mangez des bonnes choses, c'est du bien-être. Mais effectivement, on est comme notre chat ou notre chien. Quand, en mangeant ces choses délicieuses, je m'arrête, je prends conscience et je me dis « c'est vraiment génial ce que je suis en train de manger ». J'ai de la chance de pouvoir manger ça, j'ai de la chance d'avoir quelqu'un qui sait aussi bien faire la cuisine ou de savoir moi-même si bien faire la cuisine, etc. Eh bien, je ressens quelque chose de plus fort que du simple bien-être. C'est une transcendance du bien-être et ça s'appelle le bonheur. Hein, ce moment où on réalise que ce qui nous arrive, c'est une chance exceptionnelle et c'est délicieux. Et d'ailleurs, on a des études où on montre que quand on fait manger du chocolat d'égale qualité à des gens, tout en leur demandant de lire le journal ou de faire des maths, et à d'autres personnes en leur demandant de se centrer sur le goût du chocolat et sur ce qu'ils sont en train de ressentir, ceux qui ne font que savourer le chocolat le trouvent bien meilleur, ce qui est logique, que ceux à qui on a fait faire autre chose en même temps. Le problème avec ces histoires de conscience et de bonheur, c'est que souvent, on n'est pas présent à ce qui nous arrive d'agréable. Il nous arrive des choses plutôt heureuses, mais notre esprit est ailleurs. Et c'est un peu ce que voulait dire le poète Raymond Radiguet dans son vers célèbre « Bonheur, je ne t'ai reconnu qu'au bruit que tu as fait en partant ». Finalement, on était dans un environnement agréable, mais c'est quand ça s'arrête que tout à coup, on se dit « mais oui, c'était bien ». Mais pendant qu'on y était, on n'était pas tout à fait attentif à ça. Ça, c'est un premier obstacle, problème de présence à ce qui nous arrive. Un second obstacle, c'est que parfois le bonheur fait peur à certaines personnes, par exemple aux pessimistes. Pessimistes, hein, on en connaît tous, on l'est peut-être parfois nous-mêmes à certains moments. C'est les gens, à chaque fois qu'on leur dit « regarde comme il fait beau », qui se concentrent sur le fait que ça va s'arrêter, qui disent « oui, mais ça ne va pas durer » ou bien « oui, mais on va le payer ». Hein. Donc ça, c'est vraiment le pessimiste, c'est comme finalement la mathématique mentale du pessimiste, c'est « si je me laisse aller au bonheur, je serai malheureux quand ça va s'arrêter, donc j'y vais pas, quoi. Je préfère rester grognon, comme ça je souffrirai moins du sevrage du bonheur. » Alors bon, c'est un calcul évidemment qui peut se défendre, hein, mais qui a quand même un certain nombre d'inconvénients, ne pas arriver à se laisser aller, même pour de brefs instants. Au fond, le pessimiste, ce qu'il voudrait, c'est que le bonheur dure toujours. Et le fait que le bonheur puisse s'arrêter, ça le dégoûte du bonheur. Et donc, même pour des expériences positives très brèves, il n'a pas envie d'y aller. Et puis, le troisième obstacle qui peut évidemment exister, c'est que si je prends conscience de ce qu'il y a de bon dans ma vie, ben, je vais prendre conscience aussi de ce qu'il y a de moins bon. je vais cesser de vivre au ras des pâquerettes comme un animal ou comme une machine et prendre conscience du bon, mais évidemment, ça m'ouvrira aussi à ce qui est douloureux. C'est un peu ce que voulait dire Woody Allen avec sa célèbre citation, hein, « Depuis que l'homme sait qu'il est mortel, il a du mal à être tout à fait décontracté. » C'est-à-dire, voilà, je prends conscience du bonheur, mais je prends conscience aussi de tout un tas d'autres choses, dont le fait que je peux mourir, être malheureux, ou que les gens que j'aime peuvent mourir ou être malheureux. D'ailleurs, moi ou les autres. Vous savez qu'il y a tout un tas de tout un grand débat autour du bonheur que certains taxent d'égoïsme, un peu comme dans cette citation de la pièce d'Anouilh, Antigone, hein, où Antigone dit « J'aurais beau tricher, fermer les yeux toutes mes forces, il y aura toujours un chien perdu quelque part qui m'empêchera d'être heureuse. » C'est-à-dire qu'au fond, comment on peut se permettre d'être heureux alors que sur Terre, il y a des gens malheureux qui souffrent, qui ont une vie atroce, qui sont torturés, etc. C'est vrai que c'est compliqué de répondre à cette question. La seule réponse qu'on a, c'est, enfin, il y en a plein évidemment, mais une qu'on peut donner d'après les travaux qu'on a vus, c'est que d'abord, m'empêcher d'être heureux parce qu'il y a du malheur autour de moi ne soulagera pas le malheur des autres. C'est pas parce qu'il y a quelqu'un qui se rend malheureux qu'il allège le malheur des autres. Et au contraire, ça va peut-être même me retirer de l'énergie pour aller les aider, puisqu'on a vu que plus quelqu'un va bien, plus il peut avoir d'énergie et d'envie d'aller aider les autres. Et d'ailleurs, quand on regarde dans toutes les traditions, hein, que ce soit les saints catholiques ou la tradition bouddhiste, toutes ces traditions spirituelles ou religieuses insistent sur le fait que les capacités à la compassion doivent s'accompagner de joie. Si je suis dans une compassion triste, si je suis ému par la souffrance des autres et qu'elle finit par me rendre infiniment triste, j'aurai moins d'énergie pour les secourir que si je suis heureux de pouvoir les aider, que si j'ai cette énergie-là en moi. J'avais lu des interviews de Mère Teresa où elle disait exactement ça. Vous avez ça également dans le bouddhisme. Donc, c'est une intuition qu'on retrouve aujourd'hui dans ces travaux de psychologie positive, de psychologie scientifique. C'est que la capacité à aider les autres est liée à notre bonheur. Donc, justement, ça serait absurde de s'interdire d'être heureux sous prétexte que les autres souffrent. Si notre souhait, c'est de les aider, soyons aussi heureux que possible et aussi altruistes que possible. Après, il y a tout un tas d'études très intéressantes sur notre capacité à être heureux, même quand on a des problèmes. Ça, c'est des très belles études sur le veuvage qui ont été conduites par des collègues. Ils prenaient des personnes endeuillées depuis 6 mois. Pas trop tôt pour quand même pas les ennuyer avec des études alors qu'elles étaient immensément malheureuses, et pas trop tard pour les attraper juste au moment où elles s'ouvraient à nouveau à l'extérieur. Et donc on leur demandait de parler de leur conjoint en les filmant. Et on regardait, lorsqu'elles évoquaient les bons moments passés avec leur conjoint, le nombre de sourires qu'elles avaient. Est-ce qu'elles étaient capables de sourire ou non? C'est-à-dire, malgré leur tristesse, ressentir du bonheur. Et ça, c'est une capacité psychologique qui nous intéresse beaucoup parce que ça veut dire qu'elles sont capables d'être à la fois tristes et heureuses. Et souvent dans notre vie, il y a des circonstances qui vont ressembler à ça, des moments de notre vie où on a plein de soucis au travail, mais où quand on rentre chez nous le soir, on retrouve notre famille et c'est quand même des moments heureux, sympas de retrouver notre conjoint, nos enfants. Et donc comment faire pour à la fois avoir ce poids dans notre vie lié à notre travail et puis laisser ces morceaux de bonheur exister au lieu de les laisser se faire écrabouiller par la tristesse ou le stress. Et ce que montre ce genre d'études, c'est que les personnes qui étaient capables de sourire, d'avoir des vrais sourires en repensant à leur conjoint, étaient celles qui, 2 ans plus tard, quand on les réévaluait, allaient le mieux, avaient le moins de scores de symptômes de dépression, c'était le mieux reconstruite au point de vue du réseau social. Donc, comme si cette capacité à préserver du bonheur dans le malheur était quelque chose qui augmentait leur robustesse, qui augmentait leur force psychologique pour survivre à un événement quand même extrêmement déstabilisant. Voilà, ça c'est d'autres études, mais on va passer parce qu'on est un peu en retard. Quoique, non allez, on va passer, je voudrais vous parler de la suite. Donc vous voyez, ce détour par le bonheur, pour vous rappeler à quel point c'est devenu une réflexion maintenant en psychothérapie, en tout cas dans tout ce courant de psychothérapie qui s'intéresse à la prévention des rechutes, pas seulement empêcher les gens d'être déprimés, mais après réfléchir un peu avec eux à ce qu'ils pourraient faire pour savourer leur existence, peut-être se rendre un peu plus heureux et qu'ils ne le seraient spontanément sans faire d'efforts, puisqu'on pense aujourd'hui que c'est quelque chose d'accessible. Mais je voudrais vous parler maintenant, et pour conclure, d'un autre point également sur lequel on travaille beaucoup en ce moment, c'est la notion de conscience. Alors là aussi, ça a été pressenti par des gens comme Camus qui disait, dans son essai Le mythe de Sisyphe, je ne sais plus d'être heureux que je souhaite, mais d'être conscient. Alors on a vu que être heureux nécessitait un acte de conscience, mais peut-être que Camus voulait dire quelque chose qui va beaucoup plus loin, et en tout cas on va essayer de transposer ça à un certain nombre de travaux qui sont en cours, en chantier aujourd'hui. Alors, pour rester connecté au bonheur, un des problèmes qu'on a avec le bonheur, et que vous connaissez sans doute, c'est l'habituation hédonique. Alors, vous ne le connaissez peut-être pas sous ce terme, mais nous, on appelle ça habituation hédonique. Ça consiste à décrire l'usure des choses agréables à nous rendre heureux. Par exemple, ce qu'on imagine quand un événement agréable nous arrive, c'est que ça va nous rendre plus heureux. C'est-à-dire, quand j'aurai cette promotion, ou quand j'aurai acheté cette nouvelle voiture, ou ce nouveau canapé, ou quand je serai marié, ou quand j'aurai des enfants, ou quand je serai à la retraite, je pense que ça va élever mon niveau de bonheur pour toujours. Et en réalité, ça l'élève bel et bien, mais pas du tout pour toujours, parce qu'au bout d'un moment, ça va retomber. C'est ce qu'on appelle l'habituation hédonique, c'est-à-dire on s'habitue aux bonnes choses. Là aussi, c'est comme ça, notre cerveau est fait comme ça, et des explications que je ne vous donnerai pas maintenant, et puis je ne les connais certainement pas toutes, mais en tout cas, c'est un grand classique, et donc ça a été très largement étudié. Et donc, on essaie de développer, dans les groupes où on travaille sur la psychologie positive, des exercices pour sensibiliser les participants à ça. Par exemple, il y en a un qu'on appelle « démocratie et douche chaude » qui consiste à attirer l'attention des participants sur tout ce qui représente des sources de bonheur dans nos vies, mais qu'on oublie parce que c'est toujours là. Et comme c'est toujours là, toujours disponible, eh bien on n'y fait plus attention. Le fait, par exemple, d'avoir de l'eau chaude pour prendre sa douche le matin ou après avoir fait du sport. C'est rare que chaque fois que l'eau chaude coule sur nous, on se sente immensément heureux, on pousse des cris de joie, on se dise « quel bol j'ai, punaise, c'est génial d'être un humain, de ne pas être un cochon, de pouvoir me laver et tout. » C'est vraiment top quoi, d'être né dans la peau d'un être humain en 2011 avec des cumulus, électricité et compagnie. On ne réagit pas comme ça. On réagira comme ça uniquement si on a eu une panne de cumulus pendant une semaine au mois de décembre. On n'a pas pu prendre de douche. On est allé chez les voisins. On s'est douché à l'eau tiède ou à l'eau froide, etc. Et puis, le jour où, où c'est réparé, où on a notre première douche d'eau chaude, on ressent un bonheur et un plaisir intense. Et puis, de nouveau, ça va s'éroder. C'est comme ça. C'est normal. Mais ça vaut la peine régulièrement d'ouvrir nos yeux là-dessus, de faire un acte de conscience pour se poser la question de savoir quelles sont toutes ces sources de bonheur dans ma vie que j'oublie. C'est un peu la même chose si vous êtes cassé la jambe, le jour où on vous retire le plâtre et où peu à peu vous redécouvrez ce que c'est de marcher sur vos deux jambes sans avoir à avoir des béquilles. Ou bien c'est qu'on est tombé malade, on avait la grippe, de la fièvre, etc. Et puis tout à coup, on sort de la fièvre, on s'aperçoit que c'est génial de ne pas être en permanence avec 42 fièvres, etc. Pareil pour la démocratie, c'est rare que quand on va voter, on soit fou de joie. Et pourtant, si on ne pouvait pas voter, si on vivait en dictature, évidemment, les premiers votes auxquels on pourrait participer librement nous mettraient dans des états de joie intense. Donc, ce type de travail, on le fait faire à nos patients en leur demandant de relever des moments agréables. Alors là, je me suis trompé, c'est pas, j'ai entouré pour l'exercice de gratitude, mais il faut regarder plutôt ça. On leur demande chaque jour de repenser à des moments agréables de la journée pour aiguiser leur conscience de ces bons moments. Donc c'est un exercice très simple. On leur demande tous les soirs de repenser à trois petits moments agréables qui leur ont fait plaisir par rapport aux événements qui leur sont arrivés, pour affûter donc un petit peu cette capacité. Et puis on va encore plus loin. Actuellement, on teste des nouvelles formes de stratégies psychologiques pour affûter la conscience et la disponibilité à ce qu'on est en train de vivre. Puisque souvent, c'est un vrai souci, notre esprit n'est pas là où notre corps se trouve, et même dans des moments agréables et intéressants, comme dans cette diapositive, vous voyez que l'obsession d'un des deux personnages face à ce paysage magnifique, c'est les blocs de WC. Et ça, c'est très fréquent, et c'est peut-être plus fréquent de nos jours que ça ne l'a jamais été, c'est-à-dire cette espèce de dispersion permanente de notre esprit qui fait qu'on n'habite pas du tout les moments que nous sommes en train de traverser. Quand on est au travail, pensez au loisir. Quand on est au loisir, pensez à autre chose. Et repensez au travail le soir quand on est dans son lit, etc. Ça, c'est un vrai souci. On a des études montrant que plus notre esprit est dispersé, et notre société pousse à la dispersion de l'esprit, moins nous sommes heureux. Là aussi, grosse étude qui a été publiée dans une revue qui s'appelle Science, qui est une revue de très haut niveau où c'est très difficile de publier des papiers, donc il faut vraiment avoir fait un travail extrêmement rigoureux, où on demandait à des gens de participer à, pareil, il y avait un beeper qui sonnait dans leur poche 10 fois par jour pendant plusieurs semaines, et au moment où le beeper sonnait, ils devaient dire, 1, dans quel état émotionnel ils se trouvaient, 2, quelle était l'activité à laquelle ils étaient en train de se livrer, et 3, est-ce qu'ils étaient vraiment concentrés sur le truc ? Et ce qu'on montrait, c'est que moins les gens étaient concentrés sur ce qu'ils faisaient, moins ils se sentaient heureux. Globalement, plus on est dans la dispersion psychologique, moins on a de capacité à se sentir heureux. Ce qui paraît étrange, au fond, de relier bonheur et attention, mais ce genre d'étude nous rappelle l'importance de ce type de lien. Et en fait, ça c'est encore en kiosque, c'est une revue très intéressante qui s'appelle Cerveau et Psycho, où il y a un dossier ce mois-ci sur les problèmes attentionnels qui se posent dans nos sociétés. Il y a plusieurs papiers très intéressants, moi j'en ai fait un, mais il y a tout un dossier vraiment passionnant, qui montre qu'on vit dans une société qui explose totalement nos capacités attentionnelles, qui nous distrait de plus en plus, qui interrompt nos temps de continuité attentionnelle. Quand on est sur ordinateur, il y a les mails, il y a les SMS, les coups de téléphone, etc. Et que ça, c'est mauvais pour notre bien-être psychologique. Donc, on encourage actuellement dans tout un tas de contextes d'entraînement attentionnel en psychothérapie pour certains patients à muscler ses capacités attentionnelles. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que je suis déjà en retard là sur mon timing, mais on se débrouillera pour que vous puissiez avoir la possibilité de télécharger sur le site donc de l'espace Mendes France cette liste et puis d'autres diapositives. Et donc, c'est pour ça qu'on propose actuellement en psychothérapie un outil qu'on appelle la pleine conscience, la méditation de pleine conscience, qui consiste à demander aux personnes participantes de faire des exercices, alors on leur apprend comment les faire, où elles vont centrer leur esprit sur l'instant présent, ce qui est assez difficile, parce que dès qu'on centre notre esprit sur l'instant présent, il a tendance, en quelques secondes, à s'échapper, à aller ailleurs, sans espérer se détendre, sans vouloir faire le vide, juste être attentif à ses mouvements respiratoires, au son qui nous arrive, à l'état de son corps. Et essayez de rester avec ça pendant 5 minutes, 10 minutes, 20 minutes, une demi-heure. Et c'est un exercice redoutable parce qu'au début, on s'aperçoit qu'on en est incapable. On est incapable de poser son esprit dans l'instant présent et que tout de suite, on part vers qu'est-ce que je vais faire tout à l'heure, pourquoi j'ai dit ça hier, qu'est-ce qu'il y a dans le frigo pour ce soir, est-ce qu'on a bien fait les courses, j'ai pas fini mon boulot, je ferais mieux de répondre à mes mails au lieu de faire cet exercice stupide, etc. etc. Et donc, on a beaucoup de mal à faire ça. Et plus on apprend à le faire, plus on entraîne les personnes à faire ça, plus on améliore leur équilibre psychologique. On a montré l'efficacité de ce type de technique chez des gens dépressifs. Une fois qu'ils sont guéris, là, c'est des populations très, très importantes pour nous. C'est les gens qui ont fait au moins 2 antécédents d'épisodes dépressifs et qui ont été soignés pour un 3e. On les a guéris du 3e avec des antidépresseurs. On les garde assez longtemps sous antidépresseurs. Et puis, à un moment donné, on va soit arrêter l'antidépresseur pour remplacer par un placebo. Ils ne savent pas qu'ils n'ont plus l'antidépresseur, ils ont juste un placebo. Soit arrêter l'antidépresseur, mettre un placebo, mais leur faire faire de la pleine conscience, de la méditation, soit garder l'antidépresseur. Ce qu'on montre, c'est que 1 an et demi après, ou 2 ans, je ne me souviens plus exactement, 1 an et demi, ce qu'on appelle les courbes de survie, c'est-à-dire est-ce qu'il y en a, plus la courbe est haute, plus ça veut dire qu'ils n'ont pas fait de rechute. Ceux à qui on a arrêté l'antidépresseur et qui n'ont rien eu à la place, sont très nombreux à avoir rechuté. Il n'y en a plus que 20% au bout d'un an et demi qui n'ont pas rechuté. Hein, c'est des gens qui ont eu 3 épisodes avant, donc c'est assez logique. C'est les chiffres qu'on retrouve toujours. Mince. Par contre, ceux à qui on a gardé le médicament, mais aussi ceux qui n'avaient plus le médicament, mais qui ont fait de la méditation, ont été 2 fois ou 3 fois moins nombreux à rechuter. Il y en a 70%, un an et demi après, qui n'ont pas rechuté. Donc ces deux options, évidemment la première on la connaissait, garder sous antidépresseur, mais celle-là, juste faire de la méditation de pleine conscience, pouvant protéger des rechutes, c'est très intéressant. Et c'est assez logique, au travers de tout ce qu'on a, de tout ce qu'on a vu, ça va augmenter la conscience des émotions positives, ça va donner un peu de distance par rapport aux émotions négatives, etc. Voilà, donc ça c'est... l'étude. Donc ça c'est ce que je vous disais, ça va accroître l'émotionnalité positive, hein, ces exercices de méditation de pleine conscience, et on a pu mesurer que ça modifiait l'activité électrique cérébrale. On ne va pas rentrer dans le détail. Voilà, la publicité sur mes livres sur ce thème là patati patata. Je conclue parce que là ça devient terrible, mon dépassement d'horaire. Ce qui est très important dans tout ce champ que j'ai essayé de vous faire un survol rapide, hein, je m'excuse, c'était vraiment à toute allure. Le champ de la psychologie positive dit simplement qu'il y a des choses vraiment intéressantes, des exercices vraiment intéressants à faire avec nos pensées, avec nos émotions, mais qu'il faut le faire, qu'il faut s'entraîner très régulièrement. Si vous voulez développer vos capacités à la pleine conscience, il va falloir tous les jours faire 10-15 minutes d'exercice. Si vous voulez développer votre capacité à la conscience des bonnes choses qu'il y a autour de vous, il ne suffit pas juste de vous dire « Ah tiens, il faut que je pense davantage à tous ces bonheurs auxquels je ne pense pas. » Il faut tous les soirs, avant de vous endormir, penser à 3 petits trucs sympas qui ont eu lieu dans la journée. Si vous voulez développer vos capacités à la gratitude, c'est pareil, régulièrement, repenser à des gens qui vous ont fait du bien. Donc c'est vraiment la pratique. D'autre part, ça n'arrive pas tout d'un coup, c'est-à-dire vous n'avez pas de risque que ça se passe comme sur ce dessin, hein, tout à coup, si vous vous surdosez en exercice de psychologie positive, vous vous retrouvez à l'hôpital parce que vous n'étiez pas habitué. Ça ressemble plutôt à une lente infusion comme ça, un peu bio, hein, ces exercices peu à peu ont modifié notre bien-être tout doucement, mais en tout cas, ça vaut vraiment la peine de s'entraîner avec assiduité. Voilà, merci beaucoup pour votre attention. Merci. Alors, on peut peut-être prendre quelques questions, mais pas trop, parce que déjà, je suis en retard. Alors, on va vous donner un micro éventuellement. Si vous avez des petites questions à propos de tout ce qu'on a vu... ou ce qu'on n'a pas vu.
Merci. Je voudrais savoir si la sophrologie a les mêmes bénéfices que la méditation, s'il vous plaît.
Alors, il y a de fortes chances que oui. Le problème de la sophrologie, après, vous savez, ce qui est compliqué actuellement en psychologie, c'est qu'il y a tout un tas d'approches qui sont probablement efficaces. La sophrologie, la PNL, des trucs comme ça, mais qui ne disposent pas de preuves scientifiques d'efficacité. Et ça, l'écart entre les psychothérapies qui se creusent actuellement, il est à ce niveau-là. Il y a des thérapies qui ont vraiment fait l'effort depuis plusieurs années de conduire des études comme celles que je vous ai présentées, et donc qui ont montré qu'elles marchaient, et puis d'autres qui n'ont pas fait cet effort pour tout un tas de raisons. Enfin, en général, c'est plus facile. Toutes les thérapies qui sont utilisées dans les hôpitaux par les médecins, évidemment, on a davantage, dans la culture médicale, on a un peu plus l'habitude de ce genre d'études, mais c'est ce qui manque actuellement, à mon avis, à la sophrologie. Même s'il y a des études qui sont intéressantes, mais ça ne veut pas dire que ça ne marche pas. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas d'études que ça ne marche pas, c'est qu'il faudrait conduire ces études, ça prend du temps, ça demande de l'argent, et donc c'est à faire. Mais l'intuition des cliniciens, c'est que la sophrologie a beaucoup de mécanismes communs avec la conscience, et puis qu'on voit des gens améliorés par elle, qui a vraiment raison pour que ça puisse ne pas marcher. Mais vous savez, aujourd'hui, les psychothérapies qui veulent survivre par rapport au risque, effectivement, de médicalisation de nos existences, etc., c'est celles qui feront la preuve de leur efficacité. Ça, c'est clair qu'on va de plus en plus demander ça à des méthodes psychothérapiques. Ouais. D'autres questions ? Oui ? Prenez le micro, prenez le micro.
Bonjour. Pour s'inscrire pour les... Merci beaucoup. Pour les tests, pour être cobaye dans vos tests, j'aimerais bien m'inscrire au labo de l'extase.
Ah. Alors en général, il faut contacter les labos de psychologie sociale, des centres universitaires. Je sais pas, il y a une fac de psycho à Poitiers, donc il y a probablement de la psychologie sociale qui y est enseignée. C'est eux les gros recruteurs, les gros consommateurs pour ce type d'études.
Et le parapsychologie au CNRS, vous êtes en lien ?
Non,
pas du tout.
Ce qui est parapsychologie, j'ai pas de connaissance de ça.
D'accord. Merci, bonne fin de soirée.
Merci. D'autres questions ? Vous n'êtes pas trop écrasé par la chaleur ?
Oui, bonsoir. Je voulais savoir si vous avez, à travers vos études et vos résultats sur les travaux de pleine conscience, des résultats concernant plutôt les troubles bipolaires.
Alors, sur les troubles bipolaires, très honnêtement, il n'y a pas d'études décisives. On ne peut pas dire aujourd'hui que les approches de pleine conscience sont utiles, guérissent ou limitent les rechutes. On n'a pas d'études convaincantes. On a des impressions cliniques ou des toutes petites études qui montrent que ça paraît être un des outils susceptibles d'améliorer les bipolaires. Mais les bipolaires, la première nécessité, c'est les médicaments. Ça, c'est vrai que sans médicaments, si on est un vrai bipolaire, alors le problème après, c'est qu'on peut avoir eu un diagnostic de bipolaire, peut-être un peu trop largement distribué, ça c'est une autre question, mais si on a vraiment un trouble bipolaire, donc la maladie bipolaire, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, c'est une maladie où toute notre vie, on va avoir soit des épisodes dépressifs récurrents, qui vont vraiment revenir assez régulièrement, soit des épisodes d'excitation excessive, soit les deux. Et donc, c'est une maladie qui nécessite en général qu'on prenne un traitement qu'on appelle régulateur, soit du lithium, soit d'autres molécules, pour nous éviter toutes ces oscillations, parce que c'est très destructeur à chaque fois. Et donc, on cherche actuellement quels sont les moyens, en plus des médicaments, les moyens psychologiques qui pourraient améliorer ces personnes. Donc, il y a un certain nombre de protocoles, de thérapies qui aident vraiment les personnes bipolaires. La pleine conscience est à l'étude. On cherche à voir en quoi ça peut les améliorer. Il semble que ça améliore la stabilité des émotions, mais on n'a pas encore la grosse étude sur 4-5 ans qui montre que les bipolaires méditants ont moins de rechutes que les autres. À mon avis, on aura ça un jour, mais pour l'instant, c'est absolument pas dans les... Voilà, on ne peut pas le dire. On ne peut pas le dire comme ça. Oui.
Tous ces exercices de bonheur, ok, c'est bien, mais quand on est dans une ambiance au travail avec des gens très pessimistes, comment on peut le gérer ou ça ?
Oui. Mais c'est une question à laquelle il n'y a pas de réponse simple. C'est-à-dire que quand on voit que le lien avec les autres, c'est vraiment un des facteurs qui pèse le plus sur notre capacité à nous sentir bien, effectivement... Il y a des ambiances familiales ou des ambiances professionnelles qui rendent le fait de se sentir heureux très compliqué. Il faut vraiment être un surdoué ou un très très gros bosseur ou changer carrément d'ambiance pour pouvoir y arriver. Donc c'est pour ça, une fois de plus, que ce qui est vraiment important, c'est de dire qu'il n'est pas toujours possible de positiver. Il y a des choses, des lieux, des relations qu'on ne peut pas positiver. Et lorsqu'on se trouve dans ces environnements, l'idée, c'est juste de se dire, essaie de survivre, essaie de ne pas y laisser trop de plumes, essaie de pas trop te laisser toucher par ces choses-là et cherche tes sources d'équilibre, tes sources de bonheur ailleurs, dans d'autres relations, cherche à récupérer ailleurs, cherche à te faire du bien ailleurs. Malheureusement, parfois, la vie ne nous laisse pas le choix. L'idéal, c'est effectivement d'évoluer dans un milieu professionnel où les gens sont plutôt sympas, d'avoir une famille à peu près normale, etc., et plein de copains. Mais il y a des moments de notre vie où ça ne se passe pas vraiment comme ça. Donc là, il n'y a pas de recette décisive, sinon de ne pas chercher, comme on l'a vu sur certaines diapos, à vraiment positiver, mais se dire juste là, ton boulot, c'est la survie, te laisse pas trop démolir, et il y a d'autres moments où tu pourras récupérer. Malheureusement, pas d'autre solution à ma connaissance. Peut-être une dernière question, et puis après on va se dire au revoir, tout au fond.
Merci. Je voudrais parler de l'injonction au bonheur. Est-ce qu'elle est relative à notre époque contemporaine, historiquement, comment ça s'est passé?
Oui, ça a été dénoncé effectivement par certains penseurs comme Bruckner, etc. Alors, en gros, historiquement, c'est intéressant l'histoire du bonheur. Ça commence dans en Occident, en tout cas. En Orient, c'est encore autre chose. Mais en Occident, dès l'Antiquité grecque, les philosophes, d'ailleurs la philosophie au départ, s'appelait l'eudémonie. C'est-à-dire, c'était vraiment la philosophie était construite pour aider les humains à être plus heureux. Alors c'est une conception du bonheur qui n'était pas seulement individuelle, mais aussi avoir sa place dans le groupe, rendre service à la cité, etc. Mais donc le bonheur était considéré comme un but très valorisé, très important, très intéressant, auquel il valait vraiment la peine de se consacrer, de faire des efforts. Puis le christianisme arrive et remplace l'idée de bonheur par celle de salut et explique aux humains qu'il ne faut pas chercher à être heureux, c'est dérisoire de chercher des petits bonheurs transitoire ici-bas, il vaut mieux faire des efforts pour connaître un grand bonheur éternel dans l'au-delà. Donc c'est plutôt la question du salut de l'âme pour accéder au paradis qui se met en avant par rapport à cette histoire de bonheur qui finalement ne revient qu'au moment du XVIIIe siècle. Le grand siècle du bonheur en Occident et notamment en France, c'est le XVIIIe siècle. C'est le siècle où il y a eu en proportion le plus grand nombre de livres écrits sur le bonheur. On a souvent l'impression que c'est au XXe siècle. En réalité, par rapport au nombre de livres publiés, c'est au XVIIIe siècle où il y a eu le plus de traités sur le bonheur. Tous les écrivains, tous les philosophes, tous les penseurs ont écrit sur leurs petits traités, leurs petits manuels de bonheur. C'est très intéressant. D'ailleurs, pour les littéraires qui sont dans la salle, il y a un livre fabuleux sur ça qui s'appelle « L'idée de bonheur dans la littérature française du XVIIIe siècle ». Un énorme pavé d'un érudit qui s'appelait Robert Mosi, M-A-U-Z-I, qui est délicieux à étudier. Vous verrez, on retrouve tout le monde. Hein, tous les gens qui ont écrit au XVIIIe ont écrit sur le bonheur. Et au XVIIIe, c'est là le grand tournant. Au XVIIIe siècle, les deux grandes révolutions qui ont changé la face du monde, révolution américaine et révolution française, considèrent que le bonheur est un droit pour tous les humains. Les Américains l'inscrivent dans leur constitution. C'est un des trois droits fondamentaux. Les humains ont droit à la vie, à la liberté et non pas au bonheur, mais à la poursuite du bonheur. Autrement dit, le message, c'est que les politiques ne sont pas là pour rendre les citoyens heureux, mais pour leur donner les conditions de se rendre eux-mêmes heureux, c'est-à-dire créer les conditions de base, de sécurité, d'égalité, de fraternité, pour que chacun puisse faire ce boulot individuel. Et donc, c'est à partir de ce moment où le bonheur n'est plus réservé aux élites, comme dans l'Antiquité, mais à tout le monde, que effectivement le bonheur devient se démocratise en quelque sorte, devient quelque chose qui va pouvoir être dont on considère en tout cas qu'il est nécessaire de le permettre à tous et pas seulement aux privilégiés. Et à partir de là, effectivement, à partir du 19e, 20e siècle, il y a quand même une surexploitation du bonheur, notamment par la publicité. Finalement, tous les gens qui ont quelque chose à vendre vont essayer de le vendre en faisant croire aux gens qu'en achetant leurs produits, ils seront plus heureux. En buvant telle marque de café, vous serez plus heureux dans votre couple. Si vous remarquez, les cafés, c'est souvent un couple qui se regarde tendrement avec un feu de bois à l'arrière, donc bonheur conjugal. Si vous achetez telle marque de voiture familiale avec beaucoup d'espace, vous rendrez vos enfants plus heureux. Donc c'est vrai qu'il y a une sorte de dévoiement au fond par notre société matérialiste, hein, de consommation. Concept de bonheur, oulala, il est temps qu'on s'arrête, le micro va rendre l'âme, qui explique peut-être en partie la surpression qui a été mise sur ce concept. Et les gens qui dénoncent ça disent effectivement, maintenant on n'a plus le droit de ne pas être heureux. Ce qui est un peu excessif, mais d'une certaine façon, c'est pas si loin de la réalité. Donc ça serait un très grand débat qu'on pourrait avoir encore pendant des heures. Mais c'est vrai que ce risque de dérive a été pointé du doigt. Je crois que c'est dès qu'il y a un concept qui devient valorisé dans une société, il y a assez naturellement une tendance à le survaloriser. On a la même chose pour la santé. On a exactement la même chose pour la santé où on a accédé depuis le XXe siècle à la possibilité d'une meilleure santé. Vraiment, on est en bien meilleur état à l'âge que nous avons que ne l'étaient nos arrière-grands-parents ou même nos grands-parents. Quand on arrive aujourd'hui à 50, 60, 70 ans, on va beaucoup mieux qu'on ne pouvait l'être autrefois, où on était beaucoup plus marqué par les efforts physiques, les maladies infectieuses, etc. Donc ça, ça a été un immense progrès, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on a le sentiment qu'il y a une pression très forte sur la nécessité de faire tous les efforts qu'il faut pour se maintenir en bonne santé. Parfois, tous ces messages qu'on délivre, nous, médecins, de comportement de santé, manger des fruits et des légumes, faites du sport, etc. Et on pense que c'est bien que les gens fassent ça. On s'aperçoit qu'un certain nombre de personnes n'en peuvent plus. Qu'on leur dise qu'il faut manger ci, faire tant d'efforts physiques par jour, avoir tant de rapports sexuels, et ceci et cela. Et au bout d'un moment, ils n'en peuvent plus, quoi, qu'on dirige leur vie de cette façon. Donc ils disent on est dans une dictature. Alors c'est vrai que il y a une frontière assez ténue entre le fait de, quand les chercheurs trouvent des choses et ils disent attention, les émotions positives, c'est bon pour la santé, essayez. Au départ, il y a une bonne intention, puis à l'arrivée, il y a des gens que ça exaspère parce qu'ils trouvent que ce n'est pas facile ou que leur vie ne leur permet pas si facilement et qu'ils vont se sentir agressés par ça. Donc c'est vrai que c'est un vrai débat quant à la manière dont on peut transmettre ces genres de messages de santé publique auprès du grand public, justement. Donc, merci d'avoir soulevé cette question. Je suis désolé, il y a peut-être d'autres questions, mais il faut qu'on arrête. Merci beaucoup pour votre attention et merci aux personnes de l'autre salle également.